Puis 11h17 minutes, salut tout le monde. On se connecte tranquillement à Monsieur Reichmann. Wake up le show. Monsieur Reichmann, 11h17 minutes, il est 17h17 minutes de votre côté. Comment allez-vous, Monsieur Reichmann? Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends très bien. Et vous, vous m'entendez?
Super.
Ah ben c'est très bien. Alors c'est parfait. Nous nous entendons.
Avez-vous entendu ou enfin êtes-vous allé réécouter l'entrevue que nous avons eue la dernière fois ensemble via Skype?
Eh bien, un petit morceau. J'ai eu l'impression effectivement que le son était nettement meilleur.
Hein, c'est incroyable.
Que celui qu'on obtient par téléphone. Hein.
Exactement.
Non, ça nous donne évidemment une impression de proximité qui est évidemment très favorable et qui permet d'abord de mieux s'entendre et puis ensuite de donner l'impression qu'on est ensemble dans le studio. Mais ça finira bien par se produire un jour.
Et
j'aurai
oui.
grand plaisir, par exemple, à vous accueillir si vous venez à Paris sur Reichmann Télévision, à vous présenter à tous ceux qui vous écoutent et qui ne vous ont jamais vu.
Oui, tout à fait. Je pourrais le faire à ce moment-là. Je suis plus ou moins à l'aise, je vais vous avouer, et avec la télé, mais bon...
Pourquoi pas?
C'est ça. mais comment allez-vous? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que le soleil est à plein? Oui? Non?
Le soleil apparaît de temps en temps. Il y a de gros orages. Et puis, pour le reste, c'est un temps qui laisse espérer que l'été sera meilleur.
Oui, effectivement. Nous, jusqu'à maintenant, ça a été quand même assez extraordinaire. Et on se prépare. C'est notre dernière journée, Monsieur Reichmann.
Vous partez en vacances.
Et on n'a pas le choix. Il faut que les valeureux guerriers cessent un peu.
Se reposent un peu. Oui, ce sera le repos du guerrier, effectivement.
C'est exact. Je dois vous avouer que j'en ai besoin, histoire de revenir en force le 27 août 2007. Oui. Bien sûr, c'est le dernier lundi du mois d'août.
Voilà. Et
bien sûr.
Et vous faites 8 heures d'antenne par jour au total? Vous avez 8 heures d'émission, non, c'est cela?
Pour l'émission Wake Up, on a 4 heures d'émission. C'est vraiment de 14h à 18h. Ça, c'est du lundi au vendredi. Et pour le reste, vous avez des émissions, vous avez une émission qui est sportive, elle est une heure après notre émission Wake Up, c'est Hard Sport. Mais le reste de la programmation, elle est 100% rock alternatif. Nous avons aussi une
émission.
Alors c'est vraiment dans cette veine-là que nous travaillons. Mais le show d'opinion, c'est Wake Up, bien sûr, lequel que j'anime.
Les après-midi, donc de 14h à 18h.
C'est exact. Voilà. C'est exact.
Très bien.
Alors, nous, on a quand même de la chance. Il est seulement 11h20 et vous êtes sur le point de bientôt vous préparer à dormir. Alors, bon.
Non, on va quand même passer une bonne soirée avant.
Hein. Oui, quand même. Je ne veux pas vous exposer tout de suite au lit.
Quand je vous quitte, je suis tellement fatigué que je vais me coucher tout de suite. C'est ça que vous voulez dire?
Ben oui, c'est parce que vous avez donné votre 100%, Monsieur Reichmann.
Ben voilà, exactement. On te défonce.
Exact. Vous savez, aujourd'hui, nous avons le départ de 2000 soldats en Afghanistan. Oui. Et je me demandais, y a-t-il un peu de l'armée française qui aide l'Afghanistan à se remettre sur pied? Je n'ai pas vu de nouvelles.
Il y a, je crois, 1500 à 2000 hommes en Afghanistan.
Ah.
Et effectivement, nous avons... c'est une mission des Nations Unies, donc la France y a participé, alors qu'elle n'a pas participé à la guerre d'Irak.
Ah.
Mais en Afghanistan, nous avons des troupes et récemment, nous avons eu des soldats tués et semble-t-il, le nouveau président de la République a émis quelques doutes sur le maintien de la participation des troupes françaises en Afghanistan. Mais enfin, rien n'a été décidé pour l'instant.
Vous me parlez que Nicolas Sarkozy a des doutes?
Oui, à cet égard, il a sûrement des doutes. Ou en tout cas, il a exprimé des doutes pour calmer l'opinion, je ne sais pas. Mais disons que pour l'instant, aucune décision n'a été prise et il semble quand même que la participation française soit maintenue pour l'instant.
Ah, d'accord. Et avez-vous eu des manifestations du type contre la guerre, si on veut, ou enfin contre le départ de ces soldats français? Car nous, on est aux prises avec des contre-manifestants. Contre le déploiement de ces soldats, de ces 2000 soldats. Et je dois aussi vous avertir qu'il y aura même de la casse, probablement. Alors, j'ai trouvé...
En France, il n'y a pas eu de manifestation. Et l'opinion semble finalement assez indifférente. Bon, il est vrai que en France, il n'y a plus d'appelés, c'est une armée de métier, comme d'ailleurs aux États-Unis. Ah. Les réactions de l'opinion publique sont toujours beaucoup plus fortes quand c'est une armée de contingent. Mais je ne sais pas si c'est le cas au Canada. J'imagine que ce sont des professionnels également qui sont là. Mais en tout cas, pour l'instant, l'opinion publique est totalement indifférente, je dirais, à la participation française aux opérations d'Afghanistan.
Parce que je sais pas si j'essaie de voir un peu le profil psychologique ou enfin le type d'individu qui va dans nos manifestations. Ici, c'est très socialiste, oui. C'est très gauchiste.
Sûrement.
C'est définitif, Monsieur Eichmann. Et il parle énormément que ces 4 milliards qui s'en vont, qui sont jetés dans le feu en envoyant ces 2000 soldats là-bas, et ça pourrait ces 4 milliards être investis dans des associations, dans des programmes sociaux. Voilà, c'est ce qu'ils ont. C'est pourquoi ils militent. Pour dire justement aux soldats, ne partez pas, ça ne sert à rien de perdre vos vies là-bas, histoire de leur créer un stress supplémentaire, M. Eichmann. Je trouve que c'est assez égoïste.
C'est d'abord classique. Hein. Les manifestations de ce type se font toujours sur le même thème, à savoir inutile de dépenser de l'argent, inutile de risquer vos vies, inutile d'aider les Américains. L'argumentaire est toujours le même. Et ce sont des gens qui finalement, s'ils défendent simplement l'importance des crédits sociaux, ils n'ont vraisemblablement pas compris que nous sommes dans une civilisation mondialisée et que les crédits sociaux ne sont pas grand-chose face à ce que peut être, par exemple, le bouleversement général du monde. On en a un autre exemple avec la Turquie, mais là c'est beaucoup plus grave, oui. Parce que dans l'ensemble de l'Europe, et en France le problème est un petit peu différent parce que l'opinion est très hostile à l'entrée de la Turquie, mais vous avez des gens qui vous expliquent, et c'est la position de la plupart des officiels européens, que la Turquie est finalement entrée dans une phase de modernisation telle que ce serait très grave de ne pas l'accepter, que il y a même le commissaire à l'élargissement, un commissaire européen à l'élargissement qui s'appelle Monsieur Olli Rehn, et qui a déclaré que la Turquie est un État post-islamique. C'est extraordinaire parce que
oui.
il semble indiquer que la Turquie est l'État de l'islam. Or, non seulement ça n'est pas vrai, mais je rappelle qu'elle est quand même gouvernée par des partis islamiques et que d'autre part, la plupart des lieux où les islamiques sont présents généralisent l'usage du voile, etc. Donc les épouses et les filles des deux principaux dirigeants, Monsieur Gül et Monsieur Erdogan, sont voilés. Donc, c'est invraisemblable que des commissaires européens, parce qu'ils veulent obtenir le résultat de l'entrée de la Turquie, en arrivent à nier l'existence même de l'islam en Turquie. C'est complètement délirant. De même qu'ils veulent nier l'idée que, avec les 80 millions de Turcs qui entreraient, si on leur ouvrait la porte dans l'Europe, entreraient également 100 millions de turcophones qui ont vocation à s'unir avec les Turcs.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, nous nous retrouverions avec la nation qui deviendrait, vu son rythme de croissance démographique, la première nation en population de l'Europe, et très vite, plus que la première, puisqu'elle double, elle comporterait, si l'on ajoute les turcophones et les Turcs, elle représenterait pratiquement le double des trois principales nations européennes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Donc, il y a des irresponsables à tous les niveaux. Et quand ces irresponsables sont une minorité de gauchistes qui manifestent dans les rues, il suffit de faire en sorte de les empêcher de nuire, c'est-à-dire de créer des désordres.
Mais c'est ce qui est spécial.
Ils ont le droit de protester, mais c'est tout.
Monsieur Eichmann, ce qui est étrange, c'est qu'ils font de la casse, ils vont briser des choses, ils vont lancer des roches. Ça a été, vous voyez, j'ai un ami à moi qui est haut placé au niveau de l'armée canadienne et qui m'a téléphoné hier et qui m'a clairement averti parce que nous allons couvrir l'événement lundi 14h, ce sera une émission spéciale. Nous aurons nous allons pousser dans le fond les extraits des gens que nous allons interviewer. Nous allons même filmer aussi pour démontrer à quel point. Certainement, M. Eichmann, quand même, on veut pas non plus se faire éclater la gueule sans pouvoir donner donner une vidéocassette aux policiers.
Bien sûr. Non, de toute façon, les autres n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Mais il est vrai qu'il est curieux, même si ça s'explique, que ce soit aussi des casseurs. Mais au fond, ils sont des casseurs parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, ils n'acceptent pas le monde dans lequel ils vivent. Donc ce sont des gens qui finalement ont un mal-être personnel.
Voilà.
Et qui les disqualifie quelque peu. Quand vous n'êtes pas bien vous-même dans votre tête et dans vos baskets, je crois que d'avoir indiqué à tous les autres quelle est la bonne ligue, quelle est la bonne ligue, ça vous disqualifie peu.
Croyez-vous que d'envoyer l'armée peut être utile justement pour avoir un maintien de la paix à travers le monde? Que ce soit la vôtre ou que ce soit la nôtre, que ce soit notre armée canadienne ou que ce soit l'armée française, est-ce que l'armée est nécessaire, M. Reichmann, le croyez-vous?
D'abord, dans le principe, l'armée est nécessaire, sauf à croire que la paix éternelle est arrivée, et ce que nul ne constate. Mais tout dépend. Si l'armée est destinée à maintenir l'ordre intérieur, là, c'est un autre problème. En principe, il vaut mieux que ce soit les forces de police ou de gendarmerie qui s'en occupent. Mais on ne peut pas éviter que l'armée intervienne dans différents secteurs. D'abord parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la politique est mondialisée maintenant et nous avons affaire presque partout à des groupes multinationaux. Pour ne prendre qu'Al-Qaïda comme exemple, eh bien, ils ont des branches plus ou moins organisées mais qui se rattachent quand même à la branche centrale un peu partout dans le monde. Et les attentats, pour ne prendre que l'exemple de l'Indonésie qui est quand même très loin de l'Arabie ou du Pakistan, ont été effectués par des groupes se réclamant plus ou moins d'Al-Qaïda, mais enfin qui sont étant plus ou moins coordonnés avec Al-Qaïda, mais qui font partie de ce que l'on appelle une nébuleuse. Donc ce caractère multiforme du terrorisme et de l'islamisme fait que, dans la mesure où ils attaquent les intérêts occidentaux ou tout simplement même les populations arabes elles-mêmes ou les populations musulmanes afin d'y imposer leurs lois, obligent par le jeu des alliances ou par le jeu des nécessités de la paix internationale les armées à intervenir. Et la France par exemple a beaucoup plus d'hommes en projection, comme on dit, dans le monde qu'elle n'en a en France. Donc la France a beaucoup d'hommes en Afrique, elle en a en Afghanistan, elle en a ailleurs. Et donc je crois que nous sommes dans une phase dans laquelle on ne peut absolument pas imaginer que l'intervention militaire ne soit pas nécessaire. Alors évidemment, on peut souhaiter que ça s'arrête un jour, mais pour l'instant, il faut faire preuve d'énergie et montrer sa force, parce que sinon, avec des gens qui ne respectent que la force, comme c'est le cas d'un certain nombre de ces terroristes, je crois que notre sort serait rapidement insupportable.
C'est juste. Et ce que je remarque, c'est, enfin, surtout pour le Canada, c'est qu'on est une vraie passoire. On peut simplement mentionner le fait, M. Reichmann, nous sommes un réfugié politique, et bang, comme ça, même avec des faux papiers, ils vont nous accepter, ils vont accepter n'importe qui. Alors, je crois que il est clair qu'il faut envoyer un message aux gens islamiques qui essaient de foutre le bordel partout, un petit peu partout à travers la planète, avec notre armée, et essayer de contrôler sur leur propre terrain ces cellules qui sont actives et qui risqueraient peut-être de s'amener jusque chez nous. Je sais pas.
Oui, ben c'est un combat global. La lutte contre le terrorisme se fait à travers des renseignements, d'une part, à travers des interventions ciblées, parfois même avec des interventions militaires plus classiques. Enfin, ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas laisser les terroristes s'emparer d'un nombre important de territoires et, d'autre part, créer des cellules plus ou moins dormantes ou plus ou moins réveillées, selon le cas, prêtes à commettre à tout moment des attentats. Mais, en tout cas, ce qu'on a pu noter dans la plupart des séries d'attentats qu'on a eues, notamment en France, c'est que presque toujours ce sont des États qui sont derrière. Donc il ne faut pas se dissimuler le fait que le terrorisme n'est pas simplement le fait de nébuleuses et d'individus, ce sont des États le plus souvent qui manipulent ces attentats, comme ceux qu'il y a eu par exemple en France en 1986. 85-86 étaient manipulés par l'Iran. Il y avait un conflit entre la France et l'Iran, et qui portait en particulier sur les intérêts iraniens dans Eurodif, qui était un organisme chargé de régler des problèmes de caractère nucléaire. Et donc, pour régler ce différend, l'Iran a manipulé, maintenant on le sait avec certitude, une série de cellules qui ont fait des attentats importants. Et donc, Tout ceci dit très nettement qu'il y a un aspect diplomatique, entre guillemets, parce que la diplomatie en général, ça n'est pas ça,
non.
Dans la plupart des séries d'attentats. Alors, peut-être que les choses sont un peu différentes en ce qui concerne Al-Qaïda et notamment en ce qui concerne les attentats du 11 septembre. Là, rien ne dit qu'un État était derrière. En tout cas, il y a des États qui soutenaient Al-Qaïda, ça c'est certain, et ceux qui les finançaient étaient pour l'essentiel les Saoudiens. Seulement, le problème, c'est que le président Bush ne pouvait pas, étant donné les liens étroits qu'il y avait entre d'une part les États-Unis et le régime saoudien et d'autre part la famille Bush elle-même,
oui.
qui était très proche des milieux saoudiens. Donc le président Bush a choisi d'attaquer en Irak, mais je pense qu'il aurait été plus intelligent de s'occuper des problèmes d'Arabie Saoudite. Alors par la suite, l'Arabie Saoudite a un peu lâché Ben Laden, mais au fond, l'intégrisme wahhabite est quand même l'essentiel, l'arme essentielle et la base essentielle du terrorisme. Et je crois qu'il faudra d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, que les choses soient mises au clair. Et je pense que l'affaire d'Irak n'a pas fait avancer beaucoup les choses, même si le fait d'abattre un régime dictatorial et monstrueux a été finalement une bonne chose, évidemment.
Ça a été une bonne chose de tasser Saddam Hussein. Mais pourtant, sans oublier que c'est l'armée américaine qui l'a placé là.
Enfin, en tout cas, les Occidentaux, ce sont les Britanniques qui, au départ, ont permis l'ascension de Saddam Hussein. Mais enfin, bon, vous savez, les reproches que peuvent se faire les Occidentaux sont très nombreux. Dans toutes les affaires du Moyen et du Proche-Orient, les Occidentaux, et notamment la diplomatie britannique, a joué un rôle souvent très peu positif. Bon, il y a eu des ventes d'armes également qui ont été faites aussi par les Américains, et notamment lors du conflit avec l'Iran. La France a joué un rôle très négatif également. Il faut quand même pas oublier que Chirac était particulièrement proche de Saddam Hussein. Nous sommes tous mal comportés dans cette affaire, et les principales victimes, c'est quand même le peuple irakien qui a subi une dictature abominable, qui maintenant subit une véritable guerre civile, et dont on ne voit pas le bout. Mais en tout cas, vous savez que le général américain qui commande, je crois que c'est le chef d'état-major, a dit qu'il fallait s'attendre à au moins 10 années de présence américaine en Irak, et je pense qu'il est assez réaliste en disant cela. Je ne sais pas si les Américains auront politiquement la possibilité de tenir 10 ans, parce que le nouveau président des États-Unis, qui sera élu prochainement, dans 2 ans, aura certainement, il sera en fonction dans 2 ans, donc il aura certainement à régler ce problème. Tout va dépendre bien sûr de la campagne électorale, mais je pense que les États-Unis ne sont certainement pas prêts de quitter le bourbier irakien.
Le croyez-vous? Parce que là, il y a Hillary Clinton, qui la femme de Bill, qui est sur le point, enfin, j'ai l'impression d'être la première femme à être élue aux États-Unis, vous ne le croyez pas? Et est-ce qu'elle ne risquerait pas, à son tour, de dire « Bon, on demande un retrait des troupes américaines en Irak et on les laisse se débrouiller par la suite? »
Elle a été assez prudente. D'abord, il faut se souvenir qu'elle a soutenu l'intervention irakienne.
Voilà, exactement.
Du président Bush, premièrement. Deuxièmement, je pense que même actuellement, elle est assez prudente dans ses formulations. Je pense qu'elle attendra le dernier moment pour savoir si l'opinion penche de son côté ou pas. Enfin, il faut s'attendre quand même à ce que les Américains, même si c'est une armée de métier, ce n'est pas des conscrits qui se battent là-bas, il faut s'attendre qu'à un moment ou à un autre, les Américains finissent par demander le retrait de leurs troupes. Pour l'instant, bon, la guerre irakienne est impopulaire. Le président Bush, à cause de cela, en grande partie, a une popularité très effritée. Mais il n'y a pas vraiment de mouvement d'opinion actuellement aux États-Unis demandant le retrait. Ça se saurait si les Américains savent faire les mouvements d'opinion et savent les apprécier. Actuellement, je dirais qu'il y a une guerre qui n'est pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'y a pas non plus un mouvement aussi profond qu'avait pu être celui qui a conduit au retrait du Vietnam. Parce qu'il est vrai que là-bas, la jeunesse tout entière, à ce moment-là, était menacée d'aller au Vietnam dans une guerre qui était évidemment assez abominable.
Jusqu'à maintenant, j'ai eu une petite nouvelle comme ça qui m'est tombée sous la main à Cergy. Est-ce que je le prononce bien? Cergy.
Oui.
des violences.
Vous prononcez parfaitement bien.
Fantastique.
Et effectivement, vous faites allusion sans doute à ce qui s'est passé dimanche dernier à Cergy.
Oui, exactement.
Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave.
Oui.
Et le plus grave, c'est que la presse n'en a pas parlé. Alors, il s'est agi d'incidents. Cergy, c'est dans la banlieue parisienne. Il y avait un concert de, je ne sais pas exactement de quel type de musique, c'était du rock certainement ou quelque chose d'approchant. Et donc, ce concert a d'abord été perturbé par des bandes de plusieurs centaines de jeunes qui s'affrontaient, puis qui ensuite, ayant copieusement empêcher le concert de se tenir, se sont retournés, se sont remis ensemble contre les forces de l'ordre cette fois. Alors il y a eu énormément d'affrontements, il y a eu beaucoup de casses, il y a eu assez peu de blessés apparemment d'après les informations qu'on a, mais enfin c'est quand même des événements extrêmement graves car ça veut dire que la guerre urbaine est maintenant pratiquement lancée, c'est-à-dire que les gens essayent de faire un concert.
Oui, Monsieur Reichmann, est-ce que la communication a flanché? C'est peut-être possible de son côté. Oui, la communication a flanché. Je vais essayer de le recontacter. Parfait, on va le retirer. On va le recontacter à l'instant, ce n'est pas un problème. On était en train justement de parler de cette nouvelle concernant que les médias n'auraient pas couvert les violences dans le coin de Cergy, qui a été complètement ignoré, c'est spécial. Et comme justement M. Reichmann le faisait savoir, eh bien, à l'exception du Parisien, dis-je, les médias traditionnels n'ont pas relayé justement l'information sur les violences qui ont éclaté à l'issue du festival 100e contest de Cergy, justement l'article du quotidien dans sa déclinaison vocale de Val d'Oise, qui est daté du mardi 19 juin. Ben, ce texte se base sur le témoignage d'une jeune habitante de Cergy. Il y a même des images. Si vous allez sur www.lemonde.fr, vous avez des images, vous avez trois bonnes images où est-ce qu'on peut voir justement que les gens, par exemple, des personnes cagoulées s'en prennent au mobilier urbain, les scènes qui sont filmées dans les fenêtres, depuis la fenêtre d'un immeuble. C'est vraiment, c'est du beau travail, ceux qui ont réussi à prendre. À prendre ces images-là, franchement, c'est de quand même de qualité. Par exemple, si je poursuis ici, il a été repris de nombreuses fois des blogs d'extrême droite selon sont saisis en changeant le titre qui évoque, par exemple, les scènes d'émeutes peu banales cachées par les médias. Oui, M. Reichmann, parfait.
Oui, voilà.
On vous arrête.
Il y a une interférence.
Exactement.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Voilà, donc je vous disais que le plus grave de cette affaire des émeutes urbaines de Cergy, c'est que un peu plus d'une semaine après, on n'en aurait rien su si Le Monde n'avait pas fait sa une aujourd'hui sur ce thème, n'est-ce pas?
Okay.
Donc, ça veut dire que la liberté de la presse, qui, comme chacun le sait, ne s'use que si l'on s'en sert, ne sert pas beaucoup, et que c'est quand même des événements extrêmement graves à deux égards. Donc, l'événement lui-même est grave, et le silence médiatique est grave aussi. On cache la réalité des faits, tout ça est extrêmement grave.
On dit que c'est je sais pas pourquoi, est-ce que les sites, les blogs d'extrême droite, dis-je, se sont saisis dans le fond de la nouvelle en changeant les titres, par exemple, les scènes d'émeutes banales cachées par les médias, c'est possible.
Pas que je sache, car les sites, enfin, je sais pas s'ils sont d'extrême droite, enfin, en tout cas, les sites qui s'intéressent à ces problèmes, et je pense qu'ils devraient être nombreux à s'y intéresser parce que ce sont des problèmes graves, non pas à ma connaissance en tout cas, pris pour l'instant d'informations à ce sujet, ni diffusées, puisque l'information est relativement récente. À ma connaissance, elle n'a été publiée qu'aujourd'hui aux environs de midi 1h, c'est-à-dire quand Le Monde est sorti midi 1h heure française, lorsque Le Monde a été publié. Mais il se peut qu'il y ait eu des dépêches d'agence aujourd'hui, mais en tout cas, je n'ai vu sur aucun des sites des agences, qu'il s'agisse de l'AFP, de Reuters ou d'une autre agence, je n'ai pas vu d'informations à ce sujet. Mais soyez tranquille, à mon avis, les blogs vont se déchaîner avant longtemps.
Exactement. Monsieur Reichmann, je voulais peut-être, en terminant, parce que le temps manque, et c'est tout, je voulais savoir, est-ce qu'on peut compter sur votre retour en même temps que nous lors de la prochaine saison?
Je serais très heureux de continuer à participer à votre émission,
fantastique.
Mais pas le 27 parce que je pense ne pas être encore rentré.
C'est un lundi.
Mais oui, ah, d'accord. Mais je pense, je vous enverrai un mail pour vous dire exactement à quelle date je serai de retour à Paris.
Fantastique.
Ce sera au tout début du mois de septembre. Hein. Je n'ai pas encore le calendrier en tête, mais bah, je peux même le regarder puisque le calendrier n'est pas la chose la plus éloignée que l'on puisse avoir. Donc, vous reprenez quand votre émission?
On recommence exactement le 27 août, c'est-à-dire le premier lundi. Ben, le premier lundi, que dis-je? Le dernier lundi du mois d'août, plus exactement.
D'accord.
Et par exemple, le 31 août, ça, c'est un vendredi dans la même
alors
semaine.
Alors là, je crains de ne pas être rentré, mais le vendredi 7, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein?
Alors, on parle du 7 septembre, précisément.
Il y aurait 7 septembre.
Exactement, il n'y aurait voilà. aucun problème, M. Reichmann.
Alors, le 7 septembre, à 17h, heure de Paris, et donc, je ne sais pas quelle heure il sera à ce moment-là. Je ne sais pas si l'heure d'été sera déjà... l'heure d'hiver sera rétablie ou pas? Non, je ne
pas
pense
encore,
pas.
Oui, pas encore.
Il y a 6 heures de décalage, n'est-ce pas?
Toujours.
Il est quelle heure chez vous actuellement?
Là, présentement, il est 11h43.
C'est ça. Donc, il est en fait, il y a 6 heures de décalage. Donc, il sera, écoutez, à 11h chez vous et à 17h chez nous, le 7 septembre. Je serai heureux de vous retrouver, de voir... Alors, je ne verrai pas si vous avez bronzé pendant les vacances, puisqu'on n'en a pas de télévision, mais vous voyez qu'il faudra qu'on fasse de la télévision ensemble pour qu'on puisse au moins constater des choses importantes.
Oui, exactement. Ben, j'ai commencé à bronzer un peu, là.
C'est bien.
Un tout petit peu, là. J'ai hâte d'aller prendre du soleil, je ne le vous cache. Je vous cache pas que ça va me faire du bien et aussi ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir relaxer cet été
exactement.
Au soleil.
Et rétablir les neurones dans un état aussi proche que possible de l'état primitif.
C'est juste parce que, vu que je suis un être quand même extrêmement bouillant, eh ben là, il faut que je fasse descendre la température.
Voilà, exactement.
Monsieur Reichmann.
Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances, de bien vous refaire une santé.
Oui.
Et puis de revenir toujours avec le même punch à la fin du mois d'août et pour nous à notre rendez-vous du 7 septembre.
Merci Monsieur Reichmann, même chose,
à bientôt.
Bonnes vacances, au revoir.
Et amitié à tous, au revoir.
Amitié, bye. Alors vous avez entendu Claude Reichmann, on y va avec en rafale, en rafale.